Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi 28 juin 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Le négociateur en chef de l'Iran se rend à Doha pour reprendre les pourparlers bloqués sur la levée des sanctions. Un méga incendie ravage la basse Suez à l'ouest de l'Irak. Et projet de gazoduc transsaharien, le Niger, l'Algérie et le Nigeria franchissent une étape importante. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le négociateur en chef de l'Iran à Vienne, Ali Bareilly Kani, doit se rendre dans la capitale qatari de Doha pour reprendre les pourparlers bloqués sur la levée des sanctions. M. Bareilly Kani devrait arriver à Doha plus tard mardi. Robert Mallet, l'envoyé spécial américain pour l'Iran, s'est également rendu lundi au Qatar pour la reprise des discussions indirectes avec Téhéran sur les moyens de relancer l'accord nucléaire. L'Iran a évoqué à plusieurs reprises l'indécision de Washington comme raison de la prolongation des pourparlers, alors qu'un certain nombre de questions clés restent non résolues, allant de la suppression de toutes les sanctions post-PGAC, le plan global d'action conjoint, à l'acceptation par la partie américaine de garanties, assurant qu'elle ne quittera pas le traité à nouveau. Dimanche, New News, affilié au Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, a déclaré qu'un nouveau cycle de pourparlers sur la levée des sanctions anti-Téhéran serait très probablement organisé à Doha. Lors d'une rencontre le lundi 27 juin à Téhéran avec son homologue pakistanais, le général Nadim Reza, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareilly a tenu à évoquer les soucis sécuritaires communs partagés par les deux pays voisins. La région où se trouvent l'Iran et le Pakistan est une région très névralgique, d'autant plus que de récentes évolutions à l'échelle régionale ont abouti aux ingérences des acteurs extra-régionaux, causant également des problèmes pour tous les pays de la région, a affirmé le général Bareilly, qui s'est également réjoui des interactions renforcées qu'ont connues ces 5 dernières années l'Iran et le Pakistan dans le domaine de la sécurité frontalière. Les relations militaires irano-pakistanaises se sont développées au cours des dernières années et cela a permis aux deux pays voisins d'envisager un développement économique de façon plus efficace et avec moins de soucis sécuritaires, a indiqué le général Bareilly, faisant allusion au regard particulièrement braqué vers l'Est qui caractérise la diplomatie iranienne, notamment sous ce 13e gouvernement de la République islamique d'Iran. Des sources irakiennes ont fait part d'un incendie géant sur une base militaire irakienne dans l'ouest du pays. La chaîne Telegram Savary News, proche de la résistance irakienne, a écrit qu'une grande partie de la base Ayn al-Assad dans la province d'Al-Anbar a été ravagée par le feu. 30 convois appartenant au 1er régiment, soi-disant antiterroriste d'Al-Anbar et aux forces de l'OTAN, ont brûlé dans l'incendie, ajoute Savary News. La chaîne Al-Arabiya a prétendu que l'incendie a eu lieu au dortoir de la base. Al-Arabiya prétend également que l'incendie a été provoqué par le court-circuit, sans causer des dégâts. La base avait été prise également pour cible en mai dernier de 4 roquettes. Plus tôt, la coalition américaine avait fait part d'une attaque au drone contre la base Ayn al-Assad et de prétendre avoir réussi à intercepter et détruire ce drone. Des attaques contre les bases et convois militaires américains en Irak et en Syrie ont augmenté ces derniers mois. Le vice-ministre yéménite des Affaires étrangères a jugé improbable la prolongation de la trêve vu les tergiversations de la coalition d'agression saoudienne. Le vice-ministre yéménite des Affaires étrangères, Hossein al-Ezzi, a critiqué le non-engagement de la coalition saoudienne envers l'accord de cessez-le-feu conclu entre les deux parties. 30 000 citoyens yéménites demandent à être évacués alors que la coalition saoudienne empêche toujours les vols déjà très limités et refuse d'ouvrir les trajets qui réduisent le temps du vol de 5 heures à 30 minutes. La réalité est que tout détenteur d'armes au Yémen est sûr que les pays du Golfe Persique et l'Occident humilient et insultent intentionnellement le Yémen. Ce comportement est provocateur et coûteux. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que la trêve soit reconduite, a posté Hossein al-Ezzi sur son compte Twitter. La trêve, qui avait été mise en exergue le 2 avril dans l'espoir de mettre fin au blocus de 7 ans imposé au Yémen, mais qui avait été à maintes et maintes reprises violée par la coalition saoudienne, a été prolongée de 2 mois le 2 juin dernier. Le président du Comité suprême de la révolution yéménite, Mohamed Ali Al-Houssi, a critiqué de son côté la violation de la trêve par la coalition saoudienne. La poursuite du blocus et le refus de l'application des contenus du cessez-le-feu, qui est un document officiel conclu sous les auspices de l'ONU et du Conseil de sécurité, souligne le crime intentionnel de l'Arabie saoudite d'utiliser la faim comme une arme contre le peuple yéménite. Note Mohamed Ali Al-Houssi. Le Conseil de l'Union européenne a définitivement adopté lundi 27 juin le règlement visant à s'assurer que les capacités de stockage de gaz dans l'Union européenne soient remplies avant la saison hivernale et puissent être partagées entre les États membres. Le règlement prévoit que les installations de stockage souterrain de gaz sur le territoire des États membres devront être remplies à au moins 80% de leur capacité avant le début de l'hiver 2022-2023 et à 90% avant le début des périodes hivernales suivantes. L'Union s'efforcera d'atteindre collectivement un niveau de remplissage de 85% de la capacité totale des stockages souterrains de gaz en 2022. Certains États membres ne disposent pas d'installations de stockage sur leur territoire. Le règlement prévoit donc que ces États membres stockent 15% de leur consommation nationale annuelle de gaz dans des stocks localisés dans d'autres États membres et aient ainsi accès à des réserves de gaz stockées dans d'autres États. La commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, a déclaré lors d'une conférence presse à l'issue d'une réunion des ministres de l'énergie du bloc tenue à Luxembourg qu'il était impératif que les pays mettent à jour leur plan d'urgence et se tournent vers des moyens alternatifs pour économiser du gaz. La Commission européenne présentera le mois prochain un plan permettant aux pays de l'Union européenne de coordonner leurs préparatifs en cas de nouveau choc gazier, a-t-elle affirmé, exhortant les gouvernements à réduire leur consommation afin d'assurer un stockage suffisant pour tout nouveau choc d'approvisionnement en hiver. Le ministre du pétrole de la République du Niger a annoncé un nouveau développement vers la concrétisation du gazoduc transsaharien. Le pays a franchi une nouvelle étape dans l'ouverture du marché national et régional du gaz grâce au progrès du projet de la construction du gazoduc transsaharien TSGP. Le ministre nigérien du pétrole a rencontré le ministre algérien de l'énergie et des mines et le ministre nigérian d'État aux ressources pétrolières, ainsi que les directeurs généraux des compagnies pétrolières nationales NOC des trois pays africains pour discuter de la mise en œuvre du TSGP le 20 juin 2022 à Abuja. Au cours de la réunion, qui fait suite à la signature de la déclaration de Niamey lors du 3e forum de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en février 2022, les parties ont établi un groupe de travail et une feuille de route pour le développement du TSGP. Le ministère du pétrole du Niger félicite toutes les parties pour cette étape importante, considérant à la fois la création du groupe de travail et la feuille de route comme des moteurs clés pour faire du TSGP une réalité. Avec plus de 34 milliards de mètres cubes de gaz, le Niger, par entière, a le potentiel pour devenir un exportateur de gaz avec l'élargissement des liens énergétiques entre l'Europe et l'Afrique. Le projet TSGP marquera une nouvelle ère de coopération régionale améliorée en Afrique, renforçant la monétisation et les exportations de gaz tout en augmentant les exportations du Niger vers l'Europe via l'Algérie. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Iran ne tolérera pas la présence d'Israël. Lors d'une rencontre le lundi 27 juin à Téhéran, avec son homologue pakistanais, le général Nadim Reza, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareri, a tenu à évoquer les soucis sécuritaires communs partagés par les deux pays voisins. La région où se trouvent l'Iran et le Pakistan est une région très névralgique. D'autant plus que des récentes évolutions à l'échelle régionale ont abouti aux ingérences des acteurs extra-régionaux, causant ainsi des problèmes pour tous les pays de la région, a affirmé le général de division Bareri. Le haut cadre militaire iranien a dénoncé le régime sioniste pour être le plus à l'origine des émissions et actes déstabilisateurs dans la région. Le régime sioniste travaille à concocter des plans afin de se rapprocher des pays de la région et parvenir à ses objectifs interventionnistes, a-t-il ajouté. Le transfert d'Israël sous la responsabilité du commandement central américain CENTCOM et la participation de l'armée israélienne aux manœuvres militaires représentent une menace pour la région, selon le chef d'état-major iranien, qui, à ce propos, s'est exprimé avec la plus grande fermeté pour dire « Nous ne tolérons pas ces menaces et y réagirons sans nul doute ». Les ingérences américano-israéliennes dans la région ne s'arrêtent pas là. Toujours selon le général Bareri qui a affirmé « La création des groupes takfiristes dans la région, surtout en Irak et en Syrie, est aussi le fruit des interventions américaines et israéliennes dans la région. Ces derniers ont créé et soutenu les groupes terroristes takfiristes qui sont allés, toujours dans le cadre de la politique expansionniste de leur maître, jusqu'à pousser l'Irak et la Syrie vers l'effondrement. » Le général Bareri n'a pas manqué de parler de la catastrophe du Yémen, qui doit prendre fin le plus rapidement possible. Le général Bareri a également évoqué la question du Cachemire, en réitérant que la position de la République islamique d'Iran à ce sujet reflète la sage prise de position du leader de la révolution islamique, qui a su insister sur l'appui au peuple opprimé musulman, touché par cette affaire. Le général Bareri a aussi et surtout parlé de l'Afghanistan, une question des plus décisives sur la donne bilatérale. Selon le responsable iranien, qui a insisté sur les efforts collectifs représentatifs de tous les groupes et ethnies afghans pour assurer la sécurité de ce pays. La propagation du terrorisme en provenance de l'Afghanistan nous préoccupe toutefois. Et à ce propos, nous avons justement envisagé des plans à mettre en œuvre. Nous avons la conviction que ces problèmes pourront être réglés grâce à la coopération entre l'Iran et le Pakistan, sans nul besoin de la présence des pays étrangers, a-t-il indiqué.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors c'est vrai que le paysage politique de la France a été redessiné après les élections de l'Assemblée générale. En effet, Emmanuel Macron a perdu la majorité, une majorité absolument indispensable pour gouverner le pays. Après 2 mois de la réélection du président français, il est privé complètement et pour toujours du contrôle du pays. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'admet pas sa défaite politique et surtout après le succès tactique de la gauche pour réunifier ses députés. C'est de cela que nous allons parler à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Moins de deux mois après la réélection d'Emmanuel Macron, le vote des Français lors du second tour des élections législatives prive le président de la République du contrôle de l'Assemblée nationale. Habituellement, à ce stade, on y voyait clair. Les urnes avaient parlé, confirmant le résultat de la présidentielle. Dimanche, la mécanique du fait majoritaire s'est enrayée. 8 semaines après avoir reconduit Emmanuel Macron, le vote des Français le prive du contrôle de l'Assemblée. Dynamique impressionnante de l'extrême droite, succès tactique de la gauche réunifiée, volonté de tempérer la toute-puissance élyséenne. Au terme d'une campagne polluée par les populismes, le paysage politique apparaît non seulement éclaté, mais aussi barré par l'épais brouillard d'une abstention massive qui interdit toute interprétation définitive. Ces 4 tours de scrutin ont suscité frustration, ressentiment, désintérêt. Je voudrais avoir un mot pour tous ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. À peine élu, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron s'adressait aux électeurs du Rassemblement national et se donnait pour mission de les détourner de l'extrême droite. Plus récemment, le discours du chef de l'État et de ses soutiens est devenu une dénonciation des extrêmes, incluant le RN mais aussi la France insoumise, le pôle radical de la gauche. 5 ans après le discours du Louvre, Emmanuel Macron ne peut que constater son échec. Dimanche 19 juin, le RN a décroché 89 sièges de députés, du jamais vu dans l'histoire de l'Assemblée nationale. De l'autre côté de l'hémicycle, la France insoumise en a obtenu 72 parmi les 133 de la NUP. Ces deux forces constituent désormais les principales oppositions, quasiment privées d'élus d'opposition qui seraient malgré tout prêts à discuter pour composer une majorité d'action. Le président réélu se retrouve confronté au risque de l'immobilisme, selon le chercheur Olivier Rosenberg.
Voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à vos auditeurs et à votre invité, bien sûr.
Un plaisir de vous recevoir dans l'antenne, sur l'antenne d'une émission Le Débat. Un grand bonjour à M. Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles. M. Dupré, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tous vos auditeurs, à votre équipe, ainsi qu'à M. Pierre Dortiguier.
Un plaisir de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question va s'adresser à M. Pierre Dortiguier. Alors, les Français sont mécontents et la France est mal gérée. Donc, Emmanuel Macron qui est privé du contrôle du pays. Et avec la nouvelle Assemblée nationale, ça sera encore plus difficile pour gouverner le pays. Comment vous le constatez-vous?
Oui, c'est exact que le pays sera peut-être même incontrôlable. Je dois dire que nous entrevoyons maintenant la possibilité même d'un changement de régime politique, une 6e République. Car ce qui a fait le ressort de la 5e République, donc fondée par Charles de Gaulle, c'est qu'il y avait une sorte d'idée générale, de mouvement, disons, vers la modernité, vers le consensus, si vous voulez. Or, aujourd'hui, les difficultés de vie font que la nouvelle éducation aussi, disons, une absence ou une extinction de nombreuses valeurs générales, que ce soit civique, que ce soit religieuse ou morale au sens large, font que les sacrifices ne sont plus demandés, ne sont plus, disons, une politique à long terme n'est plus du tout, disons, reçue par l'opinion et en premier par la jeunesse. Et jusqu'à la trentaine, quarantaine, il est absolument impossible, surtout la trentaine aujourd'hui, de demander véritablement, par exemple, des sacrifices sur les retraites futures, par exemple, vous voyez. Alors, tout ceci, bien sûr, fait que les mécontentements s'expriment, mais les vues à long terme sont, disons, écartées des soucis quotidiens. On vit dans un présent difficile, mais, disons, séparés les uns des autres. Voilà. Il y a une sorte de, je ne dis pas de lutte de classe qui revient, mais une certaine méfiance entre Français, vous voyez, et jalousie aussi. Et je crois que cela fait de nous un partenaire très difficile, maintenant en Europe. Et je crois que le succès de Mme Le Pen est un succès, disons, de réaction. Vous n'avez pas un succès, elle n'a pas de vision politique générale, sauf qu'elle est peut-être plus près de la Russie que M. Macron, bien sûr, chose comme ça, que d'Amérique. Mais enfin, c'est encore à prendre, disons, ceci avec précaution, vous voyez. Je crains malheureusement que cette faiblesse du gouvernement entraîne des troubles civils dans quelques temps dans le pays. Troubles entre minorités, etc. Vous voyez, pas seulement des luttes de classe, vraiment, mais véritablement des luttes entre factions, vous voyez, et que au détriment, disons, des intérêts d'ensemble, et en premier des intérêts européens.
Oui. Merci, M. Pierre Dortiguet, pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Xavier Dupré, depuis Bruxelles. Alors, vous êtes économiste. Alors, vous connaissez certainement mieux que tout le monde la situation économique du pays, celle de la France. Alors, vu la situation, donc, après les élections du Parlement et le mécontentement général des Français, d'abord, décrivez-nous, je vous prie, la situation économique du pays. Alors, comment cela est traduit? Bien sûr, s'ajoute à cela la crise ukrainienne qui est extrêmement mal gérée par la France. Vu la politique de deux poids, deux mesures du président français, j'aimerais que vous analysiez cette situation, je vous prie.
Alors, sur le plan économique, la France contemporaine se caractérise, mais ce n'est pas propre à Emmanuel Macron. C'est une évolution qui remonte déjà à plusieurs décennies, mais qui s'est approfondie et n'a pas trouvé de solution sous Emmanuel Macron. La France se caractérise par une profonde désindustrialisation de son tissu productif. Ce qui veut donc dire que des régions entières de France, des régions provinciales, qui étaient autrefois prospères, bien aujourd'hui n'ont plus spécialement d'emploi pour leurs enfants, voient ces derniers quitter leur région d'origine pour monter, comme on dit familièrement, sur Paris, en tout cas les grandes villes, les grandes métropoles régionales, en quête d'un emploi dans les services. L'emploi n'est pas toujours présent. Il faut quand même bien se rendre compte qu'à ce sujet, Emmanuel Macron s'est rendu coupable d'un... On a commencé à compter des apprentis comme étant employés dans les statistiques du chômage, ce qui les a masqués, donne une fausse impression de plein emploi en France, alors qu'en réalité, bien une personne qui est apprentie n'a pas un véritable contrat de travail. De surcroît, le secteur des services offre moins de protection du travail que celui de l'industrie. Et donc, ce sont dans la plupart des cas, des emplois de faible qualité, précaires, et en tout cas qui ne permettent pas d'envisager une durée indéterminée, une longue durée de mise à l'emploi. Ça, c'est une première chose, ça, c'est du côté de l'emploi et de la désindustrialisation. Deuxièmement, c'est une France qui souffre évidemment d'un manque d'exportation industrielle, qui se désindustrialise de plus en plus au profit de l'Allemagne. Et donc, cela signifie aussi que le commerce extérieur français, le déficit du commerce extérieur français s'approfondit, s'aggrave d'année en année. Nous sommes bien dans ce cas de figure en ce moment. Et de ce point de vue, c'est finalement une France qui ne trouve pas de solution à des problèmes structurels profonds et graves, et auxquels Emmanuel Macron ne propose pas, de par sa politique, des solutions.
Justement, Monsieur Xavier Dupré, justement, par ce mécontentement du peuple français, est-ce qu'il serait juste d'observer donc le manque de confiance du peuple français à l'égard du président français, vu les élections de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, et un président qui a été abandonné, en fin de compte, dans ces élections?
Ah, en tout état de cause, je crois que le peuple français, d'un point de vue économique, a compris qu'Emmanuel Macron n'offrait pas de solution à long terme pour le pays. Il est européiste. Or, c'est tout de même, d'une certaine manière, l'intégration au sein de l'Union européenne qui a aggravé le déficit du commerce extérieur français et privé le pays de ses industries. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a plus de confiance pour le programme économique d'Emmanuel Macron, qui, ne soyons pas dupes, est celui des élites parisiennes depuis des décennies. Donc là, c'est très clair. La France de la périphérie, la France des banlieues, la France des régions désindustrialisées, aujourd'hui, s'est levée contre Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, ce qui a sauvé Emmanuel Macron, c'est que, finalement, c'est cette France que j'ai envie de qualifier de France des déshérités. Cette France des déshérités vote parfois pour le Rassemblement national, parfois pour la France insoumise. De ce fait, jusqu'à présent, Emmanuel Macron a pu s'appuyer sur cette division pour reconduire ce modèle des élites parisiennes. Je pense que si les choses vont dans le sens, et je suis d'accord avec le professeur Dortiguier, de tensions majeures au sein de la société française, je pense que le président Macron ira jusqu'au bout de la logique de la Ve République. Il va tenter de dissoudre, vraisemblablement, il pourrait songer en tout cas à dissoudre l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, je crois que de nouveaux éléments politiques, de nouveaux éléments institutionnels et de politique économique pourraient se mettre en place, parce que c'est vrai qu'il y a une vague de fond aujourd'hui réelle pour la NUP, qui est cette union de la gauche. On va vraiment voir très très vite si la NUP est capable de s'unir pour proposer un nom unique aux quatre groupes, communistes, socialistes, écologistes et insoumis, mélenchonistes, s'ils sont capables de proposer à eux quatre de proposer un seul nom pour la présidence de la commission des finances. Alors là, c'est pas du tout, si vous voulez, ni de ma part une théorie du complot, ni quelque chose de fantaisiste. Lorsque l'on préside la commission des finances, eh bien, on dispose d'un levier d'information sur un certain nombre de structures fiscales opaques permettant de l'évasion fiscale, qui auraient peut-être bénéficié à un certain nombre d'éléments du patronat français qui ont jusqu'à présent soutenu Emmanuel Macron. Donc, la situation est appelée à s'approfondir et à s'aggraver. En tout état de cause, j'ai presque envie de dire que, par-delà la figure personnelle d'Emmanuel Macron, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le modèle économique français, le modèle structurel de développement du capitalisme en France depuis une quarantaine d'années. Il a été remis en cause de manière très profonde par le peuple français, et en témoigne non seulement la percée du Rassemblement national, mais surtout une forte affirmation de la gauche lors de ces élections législatives. Une gauche qui aujourd'hui est beaucoup plus alternative qu'elle ne l'était sous Hollande ou même sous Jospin. C'est une gauche qui est réunie sous ce qui était autrefois l'aile gauche du Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon vient du Parti socialiste et c'est une gauche qui porte un message d'alternative et pas seulement d'alternance, notamment à travers le mot d'ordre de désobéissance aux institutions européennes.
Absolument.
En raison du droit au développement du peuple français.
Absolument. Pierre Dortiguier, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos et aux solutions très concrètes de M. Xavier Dupré ?
Je les ai écoutés et je les suis, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que le caractère du peuple français n'est pas unifié. C'est-à-dire que ce n'est qu'en temps de crise, disons qu'il recherche des mots d'ordre ou des solutions au sens des formules, voilà. Mais à la différence des autres peuples européens, nous n'avons pas une continuité dans l'action, c'est-à-dire une continuité dans le travail. Nous dépendons trop d'une administration centrale, vous voyez, et donc l'effort n'est pas continu. C'est une raison pour laquelle, justement, Jacques Attali a dit chez nous que M. Macron ne pourrait pas remplir son deuxième mandat. Vous savez, c'est une annonce qu'il a faite il y a quelques années de cela. Et je crois que nous sommes très, très inquiets, justement, de la manière dont le peuple français ne se voit pas comme peuple. c'est-à-dire se voit comme un centre, disons, comme un groupe, comme un agrégat, si vous voulez, un agrégat d'intérêts. Et ceci existe, bien sûr, dans tous les pays. Mais c'est très fort, très prononcé chez nous. Et je crois que cela tient à une culture, peut-être pas nouvelle, mais une culture qui est un mélange d'illusions américaines, d'illusions américaines, si vous voulez, d'un côté, mais avec des moyens que n'a pas l'Amérique. Vous voyez, nous sommes habillés, disons, d'un vêtement trop grand, avec des élites qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas à l'écoute, si vous voulez, des besoins du peuple ici. Vous voyez, je crois qu'en réalité, ce manque de patriotisme est peut-être la caractéristique des élites qui nous gouvernent. Vous voyez, je pense que M. Macron n'est pas de mauvaises intentions, mais il a une formation qui est une formation, disons, à notre avis, trop abstraite, pas assez populaire, vous voyez. Il parle mal au peuple, il est très jeune aussi, il faut le dire, par manque de maturité. Et il est, même ses amis les plus, je vois en Europe, ses amis l'agacent, voyez-vous. Il agace ses amis plutôt.
Voilà. Pierre Dortiguet.
Je crois que oui. C'est cela qui est, malheureusement, ce que nous subissons, c'est les conséquences de ses défauts.
Et Pierre Dortiguier, il est très souvent accusé de suivre le modèle économique et politique des États-Unis. C'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles il est mal aimé en France. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, moi-même, je trouve que le modèle politique convient aux États-Unis parce qu'il convient à la géographie, à la mentalité, etc., que nous n'avons pas en France. D'autre part, on ne peut pas dire que ce qui reste comme modèle en Europe, c'est l'Allemagne, mais le français a toujours été incapable d'adopter, disons, ce sens de la communauté qui caractérise le peuple allemand à tous les âges et sous tous les régimes. Et donc, qu'est-ce qui reste? Un entre-deux, si vous voulez. C'est la magie des formules et la magie des mots. Et alors, évidemment, ça dure le temps, ça peut durer le temps je ne sais pas, un an, deux ans. Mais au bout de quelques années, bien sûr, les gens font leur compte, voyez-vous. Et en conclusion, ils voient qu'il n'y a rien. Ils voient, bon, on a parlé du prix de l'essence qui a augmenté, etc., tout ça. Oui, il suffit. C'est vrai que la vie devient difficile, mais surtout, ce n'est pas la difficulté de vivre qui coûte un pays. C'est la désorganisation. Voilà. Ça, c'est, à mon avis, c'est le mal français. Ça a été dit par M. Père, fils autrefois, ancien ministre de l'Éducation nationale, et c'est vrai que nous payons nos défaites, voyez-vous, et malheureusement, nous affaiblissons l'Europe, parce que ceci a, naturellement, a une limite. La limite, c'est que nous avons des partenaires qui nous soutiennent, mais avec la crise actuelle à l'est de l'Europe, évidemment, avec ce que nous avons fait avec la Russie, etc., tout ceci, évidemment, va entraîner une crise énorme. Est-ce que la France sera capable d'y résister? Nous disons non. Elle changera de régime, croyant avoir trouvé une solution. Est-ce une réalité? Non. C'est une illusion, mais une illusion acceptable, si vous voulez. Mais au bout de quelques années, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un pays beaucoup plus appauvri que celui que nous avons reçu. Voilà.
Xavier Dupré, quelle est votre prise de position à ces propos?
C'est assez vrai, hein. Il n'y a pas du côté du peuple français, c'est un de ces drames par rapport au peuple germanique qui l'entoure. Et moi, je suis francophone, je vis en Belgique, et c'est vrai que je constate une différence de mentalité. Nous sommes plus germaniques, nous avons le sens du collectif. En France, c'est plus compliqué. Il existe toutefois des moments de crise, parce qu'il ne faut pas être non plus excessivement pessimiste, des moments de crise qui ont permis au peuple français de se souder comme nation et de proposer des formes de stabilisation de sa vie institutionnelle et de sa vie sociale. Le dernier grand moment de ce type s'est produit sur une décennie, en réalité, pour moi je le vois sur une décennie, entre le CNR, le Conseil National de la Résistance, qui réunit tous ceux qui n'étaient pas réunis sous la banderole de Vichy et propose un modèle de démocratie économique et sociale, la sécurité sociale, une certaine forme de planification économique. Nous étions dans l'immédiat lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, les guerres coloniales vont nécessiter la mise en œuvre d'un autre modèle institutionnel. Hein, donc, c'est à la fois la guerre d'Indochine et puis après la guerre d'Algérie. Et c'est là que se mettra en œuvre la Ve République sous l'impulsion du général de Gaulle. En réalité, la grande figure tutélaire de la stabilisation de la société française dans l'après-guerre, c'est le général de Gaulle. On vit toujours aujourd'hui sous les institutions gaulliennes en France. Peut-être que dans quelques mois, les difficultés, les tensions pourraient amener à une prise de conscience, de réunification de la société française autour, et c'est une particularité de l'histoire de France, d'une figure qui sera perçue, une figure charismatique, perçue comme providentielle, permettant de restabilisé le jeu politique et de
Monsieur Dupré,
rééquilibrer
mais oui,
les
Monsieur Dupré,
inégalités.
oui, excusez-moi de vous interrompre, mais pour cela, il faut d'abord que le président français admette sa défaite politique dans les élections de l'Assemblée générale, par exemple, nationale.
Absolument. Mais vu le blocage qui va se. Si vous voulez, vu le blocage des institutions que l'on va commencer à constater. Je vous signale quand même que tout le jeu d'Emmanuel Macron, par exemple, a consisté à dire il y a moi, le camp du bien, et puis il y a le Rassemblement national, le camp du mal. Ça a été ça a été la manière sur laquelle il comptait, la stratégie sur laquelle il comptait fonder sa victoire aux élections présidentielles. Il a gagné comme cela. Mais aujourd'hui, lorsqu'il est question de la présidence de la commission des finances, on note bien que dans son parti, on préférerait travailler avec le Rassemblement national et non la NUP. De ce point de vue, c'est très clair. Il y a une partie de l'électorat macroniste qui cherche à. Si vous voulez, une partie des cadres macronistes aujourd'hui est prêt à couvrir une série d'opérations très contestables de la part de leur soutien au sein de grands groupes, de grands groupes, de la part de grands capitalistes opérant en France. Tout cela va commencer à se savoir, va provoquer des tensions politiques. À terme, il ne restera plus comme solution à Emmanuel Macron que la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est dans l'esprit de la Ve République, mais s'il perd, à ce moment-là, s'il perd son pari de renouveler une Assemblée nationale sur son programme, à ce moment-là, la France va entrer dans de terribles difficultés, mais c'est de ces terribles mais ces terribles difficultés seront passagères, puisque Emmanuel Macron sera quelque part désavoué, il sera délégitimé. Je crois qu'on est parti pour un scénario de ce type, la France devient beaucoup moins gouvernable, et cependant, c'est souvent dans ces conditions de chaos, un peu, donc situation très tendue et très compliquée, que s'est construite l'unité, que s'est reconstruite une certaine forme d'unité, toujours provisoire, toujours précaire, du peuple français.
Oui, c'est vrai que déjà le désaveu du président français est très très dur et très sévère. Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à M. Pierre d'Ortiguier depuis Toulouse d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Les Les mathématiques sont un outil étendu et précis dont les autres sciences ont souvent besoin, de la recherche en pharmacie et en médecine, à la confirmation d'une hypothèse économique et à l'exploration de problèmes sociaux. Les scientifiques se servent des mathématiques pour faciliter le terrain au développement des différentes sciences. Avec un peu d'attention à notre environnement, nous comprenons le rôle vaste que les mathématiques jouent dans la vie humaine. De diverses formes géométriques de la nature et de l'ordre dans le processus de croissance de certaines plantes, à la construction de divers bâtiments et à l'avancement de la technologie, tous sont liés d'une manière ou d'une autre aux mathématiques. Les mathématiques sont un outil permettant aux scientifiques de diverses disciplines d'élargir leurs recherches et d'assurer les résultats de leurs études scientifiques. Cette science a joué un rôle important dans le développement des civilisations anciennes. Dans les anciennes reliques des civilisations égyptiennes et romaines, l'utilisation des différentes branches des mathématiques est évidente. Les Iraniens, comme les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs, les Chinois et les Indiens étaient conscients de l'importance de cette science. Après l'avènement de l'islam, l'Iran a été transformé en berceau de grands mathématiciens comme Abu Rehan Biruni, Khwaja Nasiruddin Tusi, Khwarazmi, Avicenne, Ghiyasuddin Jamshid al-Kashi, Omar Khayyam et Sheikh Bahai. Aujourd'hui, de grands et célèbres scientifiques iraniens ayant des recherches dans le domaine des mathématiques continuent d'aider à la survie de mathématiques dans ce pays et même des figures de proue mondiale dans ce domaine ont émergé d'Iran. Pour clore la première partie du programme intitulé « Histoire des sciences en Iran » qui était consacrée à l'histoire des sciences mathématiques en Iran, nous présenterons dans cette partie du programme l'un des plus grands mathématiciens iraniens à travers le monde. Je vous invite à rester avec nous. Plus je passais de temps en maths, plus je devenais excité. C'est le texte du dernier post de Maria Mirzakhani sur Facebook dans les derniers jours de sa courte vie. Mathématicien et professeur d'université, Mirzakhani a commencé par étudier et résoudre des problèmes de mathématiques et de géométrie depuis son adolescence. Elle est morte le 15 juillet 2017. Mirzakhani est né le 12 mai 1977, a déclaré à propos de son enfance « Je suis né et j'ai grandi en Iran et j'ai eu une enfance heureuse. Il n'y avait aucun scientifique parmi les membres de notre famille, mais j'ai beaucoup appris de mon frère aîné qui a toujours été intéressé par les mathématiques et les sciences. À cette époque, on conseillait en Iran aux femmes d'être indépendantes et de poursuivre leurs propres intérêts. Je me souviens qu'à cette époque, la télévision iranienne diffusait des émissions sur des femmes distinguées et talentueuses comme Marie Curie et Hélène Keller. J'ai toujours rêvé d'écrire et d'occuper mon temps libre en lisant divers romans. Plus tard, j'ai participé à des concours de mathématiques et mon intérêt pour les mathématiques a de jour en jour grandi. Pendant ses études au lycée Farzaneghan de Téhéran, Maryam Mirzakhani a remporté des médailles d'or aux Olympiades mondiales de mathématiques en 1994 à Hong Kong, en 1995 au Canada. Et la même année à Toronto, elle a été la première étudiante iranienne à recevoir un Oscar complet. Elle a été la première fille à rejoindre l'équipe de l'Olympiade mathématique iranienne et la première femme à remporter une médaille d'or à l'Olympiade mathématique iranienne. Mirzakhani a poursuivi ses études à la Talented School, ensuite à l'Université Sharif de Téhéran, puis a choisi d'étudier à l'Université de Harvard aux États-Unis. Elle a travaillé à Harvard sous la direction du professeur McCullen et s'est intéressée à diverses branches des mathématiques. Elle a obtenu son doctorat de l'Université de Harvard en 2004 sous la direction de Curtis Tracy McCullen, lauréat de la médaille Fields. Peu de temps après, Maryam Mirzakhani a été nommée l'un des 10 meilleurs jeunes esprits en 2005 par Popular Science aux États-Unis et le meilleur esprit en mathématiques. Il a remporté des prix de l'American Mathematical Society en 2013, le prix général et la médaille Fields en 2014. Il était professeur et chercheur en mathématiques à l'Université de Stanford depuis 2008, a précédemment enseigné à l'Université de Princeton. Mirzakhani a remporté le prix Blumenthal en 2009 pour ses acquis en mathématiques. Dans une déclaration publiée à l'American Mathematical Society à l'occasion du prix de Mirzakhani, l'institution a déclaré que la raison de l'attribution de cet important prix mathématique à Mirzakhani était sa créativité exceptionnelle et sa thèse de doctorat ingénieuse dans laquelle elle a utilisé une variété d'outils de la géométrie hyperbolique aux méthodes classiques des formes automorphes et de réduction symplectique pour obtenir des résultats dans trois problèmes importants. Maryam Mirzakhani a abordé les questions les plus difficiles de son domaine d'études avec une grande persévérance. Son directeur de thèse, Curtis McCullen, a déclaré qu'elle était très ambitieuse en matière de mathématiques. Mirzakhani avait une confiance en soi inébranlable, en même temps était humble. Interrogée sur sa contribution à la résolution d'un problème d'études, elle a déclaré « Si je veux être honnête, je pense que je n'avais pas grand-chose à faire. » Mais d'autres mathématiciens rendaient hommage à son travail. Le mathématicien basé à Chicago, Alex Skine, et son collègue disent que sa thèse de doctorat intitulée « Géodésique simple sur surface hyperbolique et volume de l'espace des modules des courbes » est très intéressante et mérite d'être incluse dans les manuels de mathématiques. En 2006, Mirzakhani a pu résoudre le problème difficile suivant. Qu'arrive-t-il aux surfaces hyperboliques lorsque leur géométrie est déformée par des mécanismes de type sismique? La question difficile suivante à résoudre était comment une boule de billard se déplacerait et se comporterait sur une table polygonale au lieu d'une table carrée. Il y a un siècle, les mathématiciens ont tenté de répondre à cette question apparemment facile. Mais pendant ce siècle, il n'y avait pas de réponse simple, jusqu'à ce qu'en 2012 et 2013, Mirzakhani et deux collègues réussissent à la résoudre. Maryam Mirzakhani, scientifique iranienne et professeure de mathématiques à l'Université de Stanford, figure sur la liste des 13 lauréats de la Fondation Simons en 2013. Ses recherches portent sur la théorie de Techmaler et la dynamique et la géométrie des surfaces de Riemann et de leur espace de modules. En 2014, Maryam Mirzakhani a remporté la médaille Fields, la plus haute distinction scientifique en mathématiques, qui est décernée à des scientifiques sélectionnés d'au moins de 40 ans tous les 4 ans. Ce prix est interprété comme le prix Nobel de mathématiques. Elle a été la première femme et la première iranienne à recevoir ce prix. Le comité de la médaille Fields a écrit sur Maryam Mirzakhani. Elle maîtrise un éventail considérable de techniques et de domaines mathématiques différents. Elle incarne une combinaison rare de capacités techniques, d'ambitions audacieuses, de vaste perspicacité et de profonde curiosité. Pour cette raison, ce prix a décerné à ce scientifique iranien. La médaille Fields est la plus haute distinction qu'un mathématicien puisse recevoir. Après ce prix, le nom de Mirzakhani a fait la une des médias du monde et des mass-médias célèbres ont nommé Mirzakhani comme un mythe étrange et merveilleux dans le monde des mathématiques. Maryam Mirzakhani peut être comparée au plus grand mathématicien du monde. Et sans aucun doute, ses études en mathématiques seront utilisées et discutées par les sociétés scientifiques mathématiques du monde pendant de nombreuses années. À la suggestion du comité des mathématiques iraniennes, le jour d'anniversaire de Maryam Mirzakhani, le 12 mai, a été désigné Journée internationale des femmes en mathématiques par l'Union internationale des mathématiques. Nous avons beaucoup parlé du rôle et de la position des mathématiques et de ses figures de proue. De nombreux experts pensent que tôt ou tard, tous les emplois dans le monde d'aujourd'hui nécessiteront une formation en mathématiques après le lycée. Par conséquent, le devoir de chaque gouvernement et système éducatif est de fournir des conditions appropriées pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques et de motiver les gens à les apprendre.